19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque soir. Vous le savez, de 19h à 20h, nous sommes ensemble. C'est simple, hein, évidemment, l'ADN ne change pas. On commente, on analyse et on décrypte l'actualité. C'est parti durant une heure. Qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, un sommaire assez riche, assez dense, puisque on est à quelques jours, figurez-vous, mesdames et messieurs, partout en France, vous qui nous écoutez, quelques jours de ce premier tour des élections législatives. Il va falloir prendre une décision. Moi, je vous inviterai évidemment à aller accomplir votre devoir civique. Je vous inviterai aussi à aller voter plus que jamais, puisque évidemment, certains pays n'ont pas le droit de vote. Et puis, nous, on a la chance évidemment d'accomplir cela. Il faut aller saisir absolument et aller dimanche remplir son devoir civique. Au programme, eh bien, aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons recevoir, puisqu'on est à quelques jours, différents candidats de France qui viendront se livrer, eh bien, nous raconter la raison, évidemment, de leur engagement, de leur investiture, mais aussi, vous savez quoi, ils seront avec nous pour nous dire comment et dans quel état d'esprit sont-ils à quelques jours de ce premier tour. Les informés spéciales législatives, c'est parti, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
Et direction le Val d'Oise, premier invité.
Les informer, l'interview.
Et l'interview, c'est avec une députée sortante, Madame Naïma Moutchou. Bonjour Naïma Moutchou.
Bonjour.
Comment allez-vous tout d'abord?
Je vais bien, je vais très bien.
Bon, alors vous êtes députée sortante et vous avez décidé. Qu'est-ce qui vous a décidé, Naïma Moutchou, de reconduire votre mandat et de vous dire finalement, allez, je pense qu'il y a encore des choses à faire avant d'aborder évidemment ce mandat que vous venez de finaliser, de boucler. Dites-moi tout, Naïma Moutchou, qu'est-ce qui vous a décidé?
Je considère que j'ai encore des choses à faire et des choses à dire. Et comme j'ai toujours l'énergie de repartir pour 5 ans, eh bien, je me suis dit que je n'allais pas laisser la place aux autres. C'est vrai qu'on a eu un mandat qui a été riche, d'abord parce qu'on a beaucoup fait, mais aussi parce qu'on a eu beaucoup de crises qui ont été traversées, elles ont été dures, et donc parfois on a été empêché de faire certaines choses. Et donc je me dis, c'est l'occasion aussi d'aller au bout finalement de cet engagement que j'ai porté en 2017 et de rempiler pour un deuxième mandat.
Justement, parlons-en. Vous rempilez, et à la fois je veux vous poser cette question, Naïma Moutchou, vous députée sortante, madame la députée sortante, comment et quel enseignement tirez-vous de ce mandat que vous venez de boucler? Qu'est-ce que vous retenez de ces 5 années passées? Comment vous qualifierez votre bilan?
Moi, à titre personnel, je trouve que le bilan il est satisfaisant parce qu'on a réussi à avancer sur un certain nombre de sujets. Sur le chômage, par exemple, on n'en parle pas beaucoup du travail, mais on a quand même réussi à atteindre un niveau d'emploi qui n'avait pas été atteint depuis 15 ans. C'est quand même une réussite pour ceux qui arrivent à retrouver du travail, parce que le travail, c'est de la dignité. Sur le plan de la sécurité, on a réussi à renforcer les dispositifs, à ramener un peu plus de tranquillité publique, en dépit de ce qu'on entend, parce que quand on vous dit que les chiffres de la sécurité ont explosé, c'est faux. Il y a le sentiment de sécurité, il y a le reste. Sur l'école, on a commencé à poser les jalons d'une école au cœur de la République.
Oui.
C'est un bilan dont je suis fière. Sur le plan local, j'ai fait aussi. J'ai beaucoup investi sur l'hôpital. Il se trouve que mon père était agent hospitalier de base, hein. Il s'occupait du nettoyage à l'hôpital. Je sais ce que c'est épuisant comme métier. J'ai obtenu des investissements pour l'hôpital chez moi, à Aubonne, par exemple, de 36 millions d'euros. Enfin, c'est du jamais vu. Donc ça, j'en suis fière. Mais j'ai pas en vous.
Oui.
Si je vous disais que je suis satisfaite à 100%. Il y a des choses que j'ai pas réussi à faire. Il y a encore des choses à faire parce qu'on a traversé un certain nombre de difficultés. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de repartir.
Naïma Moutchou, justement, je vous pose une question. En 2017, il y avait le vent était en poupe, hein, évidemment, qui soufflait en direction de la majorité présidentielle. Vous représentez la majorité présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que le vent souffle en direction de cette majorité présidentielle, quand on voit évidemment les derniers sondages?
Vous savez, ce sont les gens qui décident. Et on ne peut pas décider à leur place. Pour moi, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vague. Il faut qu'on arrive à s'asseoir et à écouter les gens. Et ensuite, on s'engage pour porter leurs paroles. Et c'est à nous d'aller les convaincre sur le terrain. Moi, je ne compte pas sur une étiquette. D'ailleurs, j'étais l'étiquette de la majorité présidentielle en 2017 et je le suis toujours. Mais j'avais une voix singulière à l'Assemblée nationale. Je n'étais pas la députée d'une candidate, d'un groupe partisan. J'étais la candidate des jeunes. C'est ça qui compte à la fin.
La quatrième circonscription du Val d'Oise. Hein.
La quatrième circonscription du Val d'Oise, exactement.
Rappelons quand même les villes, ça comprend quelles villes précisément?
Alors, Franconville, Hermont, Aubonne, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix et Molignon.
Dites-moi, ce nouveau mandat, donc vous visez un nouveau mandat hein, pour la même circo, qui est convoité d'ailleurs par beaucoup, notamment par la NUP. Est-ce que cela vous inquiète, ma chère Naïma Moutchou?
Ben non, parce que d'abord c'est la démocratie, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de se présenter, et c'est le jeu d'aller en campagne et d'avoir des candidats en face. Donc si la question c'est de savoir est-ce que j'ai peur, moi j'ai pas peur des candidats, je fais pas de campagne contre les gens, contre la NUP, contre les LR, contre ceci. Non, moi ça ne m'intéresse pas. Je fais un programme pour, j'essaie de faire adhérer les gens à ce que j'ai envie de porter. Il y a un sujet qui me tient à cœur, par exemple, c'est l'école, j'en ai beaucoup parlé. Moi j'ai vécu une école qui était moteur de l'égalité des chances.
Oui.
Vous voyez, mes parents, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ce sont des immigrés marocains. Bah, j'ai eu des enseignants qui m'ont accompagnée. Avec eux, j'ai réussi, je suis devenue avocate dans un grand barreau. J'ai été reconnue par mes pairs. J'ai ensuite réussi cette étape de devenir députée et élue de la République. C'est grâce à eux. Et ben, j'ai envie de ça pour les autres. C'est comme ça que je fonctionne. C'est vraiment avec les gens, peu importe les candidats en face, et je les respecte d'ailleurs, et je débat avec eux.
Même si vous, députée sortante, on parle beaucoup de parachutage, justement. Je dis ça parce qu'il y a des candidats qui, paraît-il, découvrent justement le Val d'Oise parmi les adversaires.
C'est vrai, vous avez raison. Moi, je le déplore, ça. Parce qu'il y a de la ressource sur le terrain. Pas obligé d'aller chercher ailleurs et d'imposer quelqu'un à la population. Ça n'a pas beaucoup de sens. Moi, je m'inscris dans le territoire. D'abord, je suis une enfant du Val-d'Oise. J'y suis née, j'y ai grandi, j'y ai fait ma vie. C'est des villes que je connais par cœur. J'y ai fait mes études. J'y ai mes amis, ma famille, etc. Je connais les rues, je connais les quartiers, je connais les commerces. Ça, c'est important. Ça crée du lien. Et franchement, dans l'époque dans laquelle on vit, on a besoin de liens. Donc le parachutage, voilà, je trouve ça pas très limite.
J'ai compris, Naïma Moutchou, que dans ce second mandat, vous visiez notamment beaucoup de sujets, beaucoup de dossiers, mais notamment en grattant un peu, il y a un sujet qui, évidemment, que vous voulez porter, c'est le domaine de la justice. Pour quelle raison?
Mais oui, parce que bah, déjà, du fait de mon éducation, je crois, moi j'ai toujours lutté contre les injustices. J'en ai vécu quelques-unes, mes proches en ont vécu quelques-unes, donc c'est un combat que j'ai voulu mener très tôt. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devenue avocate. C'est une vocation qui était naturelle chez moi. J'avais envie de défendre les autres. Ça, c'est la première chose. Après, évidemment, je me suis beaucoup investie. Alors, par exemple, à la LICRA, à titre bénévole, je plaidais. J'ai beaucoup plaidé dans des affaires de discrimination, dans des affaires où des gens ont été victimes de racisme. Mmh. J'ai plaidé contre Zemmour, d'ailleurs, à l'époque où il n'était pas encore devenu aujourd'hui. Dans une affaire dans laquelle il était une des rares affaires dans laquelle il a été condamné. Voyez. Et puis après, en devenant député, ça a été la même chose. J'avais envie de continuer à défendre. Alors, pas des clients, mais défendre les gens en général. Les gens que je connais, les gens dont je suis proche. C'est un vrai combat que j'ai voulu mener. Et c'est pour ça que je me suis plus particulièrement intéressée au dossier de justice. Du fait de ma compétence professionnelle et puis certainement du fait de mon histoire.
Le Val d'Oise, disons-le, Naïma Moutchou. Vraiment, il y a beaucoup de signaux qui sont quand même au rouge. Comment comptez-vous justement développer le département et sous quelle forme?
Oui, vous avez raison. Le Val d'Oise est un département extraordinaire, riche. Il y a de la campagne, il y a de la ville, il y a des populations diverses. C'est un très beau territoire. D'ailleurs, il y a plein d'artistes qui sont passés par le Val d'Oise. Je voudrais le dire à votre antenne. Van Gogh a vécu dans le Val d'Oise, Pissarro, Manet, enfin, des artistes qui ont été inspirés eux-mêmes par ce territoire. Mais c'est vrai qu'avec le temps, il a été délaissé. On considère que le Val d'Oise, c'est la grande couronne. Ça, moi, je ne peux pas m'en satisfaire. D'abord, on a beaucoup travaillé avec le gouvernement, avec l'Élysée, sur un grand plan pour le Val d'Oise, pour le sortir du rouge, pour travailler sur les problématiques de transport, d'emploi, de mobilité, de santé. Il y a beaucoup de déserts médicaux, d'écologie, etc. C'est un plan qui a été élaboré il y a quelques mois. On y a beaucoup travaillé. J'ai mis ma pierre à l'édifice. Et maintenant, dans ce deuxième mandat, je veux suivre. Maintenant que le plan a été validé, je veux suivre l'application. Et puis, j'ai envie d'incarner mon territoire. En étant députée, en connaissant bien l'Assemblée, en connaissant bien les rouages. Maintenant, j'ai mes entrées, entre guillemets, auprès du gouvernement. Je les connais. Eh bien, je veux aller parler du Val d'Oise. Je veux incarner. Et je veux que partout, on parle enfin de ce département pour le tirer vers le haut. C'est comme ça que je vois ce mandat.
Dites-moi, Naïma Moutchou, justement, vous, députée sortante, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent dans la circo, qui est la vôtre, justement, la quatrième circonscription du Val d'Oise?
J'ai envie de leur dire d'abord que la démocratie, elle appartient à tout le monde et qu'il faut la faire fonctionner. Il ne faut pas considérer que voter, ça n'est pas utile, c'est faux. C'est utile à ceux qui vont voter. Et en général, ce sont les mêmes. Et ça n'est pas normal.
Oui.
Il faut que chacun porte une voix.
Oui.
Parce qu'après, il a le droit de critiquer. Je suis désolée, quand on s'abstient, eh bien, on n'a pas le droit de demander des comptes. C'est important. Vraiment, chaque voix compte et chaque voix peut changer les choses. Donc, il faut se saisir de ce bulletin. On a la chance, dans ce pays, d'aller voter. De choisir pour présenter.
Dans quel état d'esprit d'ailleurs vous êtes, Naïma Moutchou? On parle des sondages, des derniers sondages qui disent que le LREM et la NUP sont au coude à coude. Vous, dans quel état d'esprit? Est-ce que parfois ça effleure votre esprit de vous dire que je suis inquiète pour dimanche prochain?
Non, moi je suis combative. Mais ça, c'est mon métier d'avocate aussi. Moi, quand je prenais ma robe et ma sacoche, j'allais plaider en étant combative, en allant chercher la victoire. Mais parce que j'y croyais, vous voyez, j'y allais avec des arguments, j'y allais pas les mains dans les poches. Là, je présente un projet, c'est un projet solide, c'est un projet réaliste, c'est un projet cohérent. Je ne fais pas de démagogie.
Oui.
Je suis pas là pour vendre du rêve aux gens. Vous savez, en 2017, j'avais une vitesse très tranquille. Hein. J'étais avocate, bien installée, je gagnais très bien ma vie, mieux qu'aujourd'hui d'ailleurs, pour ne rien vous cacher. Je ne suis pas engagée en politique parce que j'ai vu la lumière. Je me suis engagée vraiment pour un certain nombre de causes, la justice, la lutte contre les discriminations, l'égalité des chances. Et c'est le discours que je continue de porter. Donc, ça, c'est mon état d'esprit. Je regarde les sondages, évidemment, parce que en politique, on regarde les sondages, c'est normal. Je regarde ce qui se passe et je m'y intéresse.
Eh bien.
Mais la campagne, elle se mène jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour et jusqu'au dernier quart d'heure.
Merci, la députée sortante Naïma Moutchou, qui était avec nous, qui représente la quatrième circonscription du Val d'Oise, qui a décidé, évidemment, qui vise un second mandat, on l'aura compris, qui vous donne rendez-vous donc dimanche prochain, et elle représente la majorité présidentielle. Merci, Naïma Moutchou. 19h12, nous poursuivons. Autre invité, vous savez, on va aller direction, après le Val d'Oise, et bien direction le 93, la 7e circonscription, celle de Montreuil, de Bagnolet, avec le PRG, le centre-gauche. Amit Cher, bonjour.
Oui, bonjour Adil.
Comment allez-vous?
Merci de me recevoir.
Et votre suppléante, c'est Férouz Bentoucha.
Voilà, ma suppléante, tout à fait, Férouz Bentoucha, une habitante montreuilloise, présidente des femmes radicales de gauche du 93.
Dites donc, il y a du beau monde là-bas, y compris des personnalités, des députés sortants qu'on connaît dans votre circo, la 7e circonscription. Alors, pourquoi vous avez décidé de vous lancer, vous, Amit Cher?
Bah écoutez, moi tout d'abord, je souhaite remercier mon vice-président Ahmed Daouej.
Qui est un débatteur chez nous régulièrement en plus.
Voilà, tout à fait. Qui m'a laissé la chance de comme je suis issu de la diversité, de porter ma voix auprès de Bagnolet et Montreuil. Donc c'est pour ça d'abord je tenais à le remercier. Et après, oui, tout à fait, vous m'avez dit, nous avons un candidat, un député sortant, Alexis Corbière, qu'on connaît. Mais bon, quand on voit ce qu'il a fait sur Bagnolet-Montreuil, là, moi, je suis régulièrement à la rencontre de la population. Et ils disent concrètement, on l'a vu pendant les élections, mais après, les 5 ans passés, ça a été un fantôme.
Ça a été un fantôme, c'est ce qu'on vous dit.
Pas de permanence du tout sur Bagnolet. Concernant, parce que chaque fois on essaie de le voir, c'était quasiment impossible.
C'est ce qui vous a motivé donc, d'ailleurs de vous présenter, hein, d'endosser évidemment l'investiture.
Voilà, parce que moi, vu que je suis un enfant du quartier, donc moi depuis 2 ans, je suis conseiller municipal au sein de la majorité, au financement extérieur, et donc je vois un peu les problématiques, que ce soit le pouvoir d'achat, l'emploi.
Sur la ville de Montreuil.
Sur la ville de Bagnolet, non.
Bagnolet, excusez-moi, Bagnolet.
Non, non. Sur la ville de Bagnolet, donc je suis élu depuis 2 ans. Et donc, je fais partie vraiment du PRG. Et donc, depuis, je me suis dit, il est temps de me lancer. Et vu que moi, je suis un citoyen avant tout, et je connais plus ou moins les problématiques, donc j'ai décidé, avec Ahmed, de pouvoir aller à cette élection.
Alors, justement, quelles sont les priorités? Parce que, alors, on a très peu le temps, vous savez, ça va très, très vite.
Oui,
quelles sont les priorités à Hamid Cher?
Moi, les priorités, je vous dis franchement, vu qu'avec l'inflation, j'aimerais bien proposer une loi exceptionnelle qui s'appliquerait automatiquement pendant les périodes d'inflation. Et donc, c'est vraiment, on supprime totalement la TVA pour le carburant.
oui.
Les énergies domestiques et les produits de première nécessité, afin que les Français, tout simplement, puissent continuer à consommer.
C'est ce que vous allez défendre ?
Mais voilà, j'aimerais bien défendre ça, parce qu'aujourd'hui, on voit que l'inflation, avec les conflits qu'on a actuellement, je pense que l'inflation va continuer à augmenter. Et ça serait bien qu'on puisse bloquer la TVA totalement pour tous nos concitoyens.
Bon, comment vous le sentez, vous, dimanche prochain, le 12, ce premier tour ? Comment vous le captez ? Comment vous le sentez, mon cher Hamid ?
Bah, écoutez, moi, je vous dis franchement, je le sens bien. Moi, écoutez, comme je l'ai toujours dit, on a un département où il y a beaucoup d'enjeux, que ce soit le logement, la transition écologique, la préservation de nos espaces verts. Il faut vraiment développer le territoire, hein, de façon que ce soit pour les transports, revitaliser nos centres innovides. Voilà, moi, je me présente vraiment en toute humilité, nécessaire face aux enjeux qui nous attendent, surtout dans notre circonscription. Et il y en a beaucoup, beaucoup à défendre. Et donc, moi, je suis là vraiment pour l'intérêt des habitants. Et je veux avant tout que le 12 et 19 juin prochain, les électeurs fassent le bon choix et d'élire vraiment un député citoyen. Et voilà, moi, je veux vraiment associer tous les citoyens à toutes les prises de décision.
Qu'est-ce que vous leur dites justement, s'ils vous écoutent ce soir, et ils sont nombreux, du côté de la 7e circonscription Montreuil-Bagnolet, mon cher Hamid Cheikh, vous leur dites quoi ?
Mais moi, je leur dis, écoutez, tout simplement, je serai un député totalement présent dans ma circonscription. Donc, je prioriserai tout simplement, comme je l'ai précisé dans mon programme, je les consulterai par un vote citoyen. Vraiment, avant toute proposition de loi, vraiment une loi qui est importante pour, avant tout pour les Bagnolais et Montreuilois, via une plateforme qui sera destinée à cet usage-là. Et en même temps, je pourrai donner mes comptes rendus, mes travaux, mes commissions, mes échanges et consultations citoyennes. Voilà. Et je leur tout à fait leur rentrer des comptes en leur communiquant souvent des bilans bimestriels de mes activités parlementaires.
Et bien, écoutez,
ils seront vraiment tout le suivi que je ferai.
Eh bien, on regardera ça avec beaucoup d'attention dès dimanche prochain. J'ai envie de vous dire bon courage, Hamid Cheikh, dans le cadre de la 7e circonscription Bagnolet-Montreuil. Et bon vent à vous pour le centre, pour le PRG, le centre gauche.
Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu.
Avec plaisir, 19h17, on lance la première pub et on se retrouve justement avec d'autres candidats et d'autres projets, d'autres engagements. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous, 0153 48 3000, vous pouvez aussi intervenir.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkas.
Et c'est venu de nous retrouver, sachez-le, il est 19h24 et c'est les informés, spéciale édition concernant les législatives. On est à quelques jour de ce premier tour, justement. Ce premier tour décisif, hein, puisque quand on regarde évidemment les sondages, on parle de plus en plus d'un coude à coude avec LREM et puis de la NUP. Nous allons recevoir, vous savez quoi ? Eh bien, une écologie populaire, inclusive et citoyenne. Qu'est-ce que cela veut bien dire ? On va aller direction Val-de-Marne avec Alfortville, Vitry-sur-Seine. Il s'agit là de la 9e circonscription. Et c'est un maire adjoint, justement, qui incarne cette investiture des législatives. Monsieur Abdallah Benbekta, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Abdallah. Comment allez-vous ?
Bonjour. Très bien, et vous ?
Ça va. Je vous remercie. Merci d'être avec nous, Abdallah Benbekta. Justement, vous avez décidé de vous lancer dans la 9e circonscription. Vous êtes maire adjoint aussi, hein, sur la ville. L'écologie populaire, inclusive et citoyenne. Qu'est-ce que, évidemment, on y met comme élément?
Eh bien, on y met tout simplement le fait que c'est une écologie qui se fera par tous et pour tous. Comme son nom l'indique, elle est populaire et inclusive, donc ce qui permet comme ça, en fait, d'impliquer tous les citoyens à participer à la transition écologique.
Qu'est-ce que vous portez concrètement, Abdallah Boubekta, justement, Boubekta, pardon, excusez-moi, pardonnez-moi.
C'est pas grave.
Qu'est-ce que vous portez comme, évidemment, domaine pour aller défendre, justement, cette investiture ?
Et bien tout simplement le fait qu'il y ait un meilleur pouvoir d'achat, donc faire en sorte à ce qu'il y ait une écologie sociale qui permette, notamment dans les quartiers populaires, à ce que les gens puissent avoir, on va dire, de véritables gains au niveau des fins de mois. Et tout ça concilié, bien entendu, on va dire, avec ce qu'on appelle la fin du monde, donc faire en sorte à ce que lorsque les personnes s'investissent dans l'écologie, et en particulier la transition écologique, ça ne se passe pas, on va dire, au détriment de leur porte-monnaie.
Au détriment. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, vous dites, vous, chez la NUP, la diversité, qu'elle soit de classe ou racisée, ça reste malheureusement la suppléance. Vous dénoncez quoi là au juste?
Je dénonce, si vous voulez, d'une certaine manière, des accords, on va dire, de boutique qui se sont faits un peu à la va-vite. Hein. Vous l'avez vu vous-même, lors des élections présidentielles, ils se détestaient presque tous. Et finalement, arrivé, on va dire, au lendemain du deuxième tour, voire même entre les deux tours, ils étaient tous dans une volonté de se rabibocher et de dire que finalement, ils étaient tous d'accord entre eux. Bon, je veux bien le croire, notamment peut-être pour défendre un véritable projet, un véritable programme. Mais curieusement, encore une fois, là où justement ils ont bénéficié, il faut quand même le reconnaître, en particulier Jean-Luc Mélenchon, d'un élan énorme dans les quartiers populaires, finalement, nous n'avons pratiquement aucun représentant, mis à part quelques-uns, éparpillés la plupart du temps d'ailleurs sur des circonscriptions, on va dire, assez inéligibles. Nous n'avons personne parmi les titulaires, ou on va vraiment très très peu, qui sont, on va dire, issus des quartiers populaires et qui, de surcroît, sont ratisés.
C'est ce que vous dites d'ailleurs, vous le regrettez, je vous pose la question, Abdallah, justement. Oui. Parce que vous dites que il n'y a pas assez de reflets de ce visage de notre société française. C'est la raison pour laquelle vous-même, vous avez décidé de vous lancer de façon indépendante. Est-ce que cela, évidemment, parce que je l'ai vu un peu partout, hein, dans les différents quartiers.
Tout à fait.
Vous prenez l'initiative de vous lancer de façon autonome et indépendante. C'est parce
Exactement.
Que, et c'est parce que la place, les places sont chères ailleurs? Ou parce que les minorités
disons
n'ont pas
que,
leur place?
Disons que les places sont chères certainement ailleurs. Les dés sont pipés surtout, en particulier vis-à-vis de certaines catégories. Qu'elles soient, encore une fois, j'insiste bien, des catégories socio-professionnelles, hein, puisqu'une grande partie, y compris de la NUP, pourtant c'est censé être, on va dire, des candidats qui sont à gauche, présentent avant tout des cadres supérieurs. Hein. Mmh. C'est quand même, on va dire, la force dominante de la typologie des candidats, ce sont avant tout des cadres supérieurs.
Ouais.
Et puis, bien entendu, bah, j'en reviens à ce que je disais, le fait que nous n'avons quasiment pas beaucoup de titulaires, la plupart sont plutôt suppléants, donc il faut savoir que les suppléants, bah, la porte d'entrée à l'Assemblée nationale pour les suppléants, c'est la sortie.
J'ai vu que vous étiez favorable, justement, à une 6e République, finalement, vous rejoignez Jean-Luc Mélenchon.
Mais nous sommes plusieurs à être favorables. Comme vous le savez, j'ai été pendant très très longtemps je suis un ancien cadre d'Europe Écologie Les Verts, et la 6e République fait partie de ce que nous proposions déjà depuis très longtemps aussi au sein de la mouvance écologique. Donc bien entendu, nous sommes pour, comme pour le RIC par exemple, hein, le référendum d'initiative citoyenne. Mais ce que je propose en plus, par rapport à ce que les autres ne proposent peut-être pas, et en tout cas pas sur ma circonscription, je suis le seul à le proposer, c'est que si je suis élu demain, oui, je mettrai en place une commission des citoyens, une commission permanente des citoyens, qui se réunira chaque trimestre avec moi pour que nous puissions élaborer les projets de loi ensemble.
Dites-moi, j'ai vu que vous l'avez dit, l'élection présidentielle a galvanisé les quartiers populaires. Est-ce que cela peut se reproduire dimanche prochain dans le cadre de ces premiers tours de législative?
Je ne saurais vous répondre là-dessus. Encore une fois, je pense qu'il va y avoir peut-être un élan de la part des quartiers populaires. Je suis beaucoup plus dubitatif, enfin je doute un peu plus que cela se fasse uniquement en faveur de la NUP.
Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui vous écoutent justement dans la 9e circonscription du Val-de-Marne qui regroupe Alfortville et Vitry-sur-Seine, mon cher Abdallah Ben Bektar?
Mais je dis tout simplement qu'il faut voter en effet pour qu'ils puissent participer pleinement à l'élaboration donc des lois, c'est-à-dire donc à la décision d'être au cœur, remettre les citoyens au cœur de la décision. Et donc à partir de là, grâce à cette commission, ils pourront en tout cas m'assister, faire en sorte de m'épauler même pour faire ces projets de loi. Et bien entendu, à partir de là, ça veut dire que tout le monde pourra donner son avis, et grâce à la concertation, ça permettra en tout cas de faire des lois qui...
Oui. Ben Bektar, Abdallah, dites-moi, oui, est-ce que vous êtes inquiet pour dimanche prochain?
Non, pas du tout. Pourquoi devrais-je l'être?
Non, je vous pose la question.
J'ai beaucoup de retours positifs sur la circonscription, qui me disent que, en effet, je fais bien de me présenter, et notamment le projet que je propose leur est totalement, ils y sont totalement favorables, et ça montre que, si vous voulez, les gens s'intéressent réellement à la politique, donc il faut savoir leur répondre convenablement, et notamment en les impliquant beaucoup plus dans la décision.
Bon courage pour dimanche prochain.
Merci infiniment, et notamment la décision en faveur d'une transition écologique, comme je disais, pour tous et par tous.
Effectivement, on l'aura compris, la 9e circonscription du Val-de-Marne, Alfortville, Vitry, donc sur Seine. Merci, vous êtes aussi par ailleurs maire adjoint, et on l'aura compris avec ce que vous venez de nous esquisser. Abdallah Benbetka, merci à vous et bon courage pour dimanche.
Merci, monsieur.
19h31, le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, c'est avec le boss, Pascal Boniface, le patron de l'ERIS. Bonjour, mon cher Pascal.
Bonjour Adil, tu vas bien ?
Très bien, merci, toujours un plaisir. Vous savez, je vais bien quand je vous écoute et que tout va bien. J'ai suivi un peu vos épisodes là, vous voulez en toucher quelques mots à l'antenne ou pas du tout ?
Sur le procès avec Forest ?
Oui.
Ah bah oui, je peux en parler, il n'y a rien de secret.
Il n'y a rien de secret, mais j'ai vu que c'était public. Beaucoup vous soutiennent d'ailleurs, justement.
Bah, je dois dire que ce jugement très franchement m'étonne. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire appel. J'ai donc été condamné en diffamation par le tribunal, la 17e chambre, pour avoir traité Fourès de sérielle menteuse et rappelé qu'elle a été virée de « On n'est pas couché » de France Culture et du Monde pour des raisons déontologiques. Et j'avais quand même un dossier assez béton, 19 témoignages de gens qui disaient que Karim Fourès avait menti, il avait répondu des rumeurs calomnieuses à leur égard. Des dossiers de presse quand même sur ces mensonges, enfin qui étaient quand même assez nourris et fournis. Enfin les déclarations d'Éric Quéron sur ces mensonges, j'ai pas couché, sur le fait que à France Culture, elle avait fait une chronique disant que les Russes avaient retiré les yeux et crevé les yeux de soldats ukrainiens alors que c'était faux et qu'il y a une remontrance du CSA. Bon, bref, aussi au Monde, des témoignages de gens qui disaient qu'elle avait un peu agacé cela. Et puis, alors, c'est postérieur au procès, mais Marianne, quand même, la société directeur de Marianne, qui n'est pas peuplée d'islamo-gauchistes à ma connaissance, et qui s'était élevée contre les méthodes de Forest. Eh bien, malgré tout ça, j'ai perdu mon procès. Donc,
comment on doit l'interpréter ?
Écoutez, ça reste mystérieux. Parce que les attendus disent que c'est un personnage public qui croit en ses convictions. Enfin, disons que les attendus la présentent de façon extrêmement positive. Et donc, voilà.
Appel.
Disons que, oui, parce que moi, là-dedans, je suis un lanceur d'alerte. Je veux dire, je participe au débat public. En fait, j'aurais pu rester tranquille. Et c'est vrai que depuis mon livre « Les intellectuels faussaires », j'ai beaucoup de malheur. Je suis interdit d'antenne. Pas chez vous, heureusement, mais bon, vous le savez, France Culture, Inter, ça continue. Bon, au Monde, on m'a écarté. Bon, et pour publier ce livre, on va parler de cela, on parlera de politique étrangère une autre fois, mais c'est aussi, ça rejoint la politique étrangère. Pour publier ce livre, j'ai eu 14 refus d'éditeurs. Parce que j'attaquais des gens qui étaient puissants et qui se sont vengés par la suite, qui sont puissants dans le monde médiatique. Et donc, c'est vrai que j'aurais dû rester dans mon coin peinard à commenter les choses. J'aurais certainement une position plus centrale. Mais on se refait pas. J'ai gardé un peu des révoltes d'adolescence. J'aime pas le mensonge, j'aime pas quand on ment, j'aime pas les faux-semblants. Et donc j'ai voulu dénoncer dans mon livre les intellectuels faussaires, tout cela. J'ajoute que, bien sûr, je n'ai eu aucun procès pour ce livre. Tout ce que je dis, personne n'a pu le démentir. Mais néanmoins, c'est moi qui ai des problèmes.
Comme nous, comme aux informés, vous ne lâchez rien.
Voilà, non, ça, certainement pas. C'est pas à mon âge que je vais changer. Et puis, de toute façon, je sais aussi, c'est ça qui me rassure, c'est que j'ai d'immenses et de très nombreuses manifestations de soutien, et très régulièrement, et c'est ça aussi qui fait tenir, c'est que le combat pour la vérité n'est pas un combat vain.
C'était pas le sujet, d'ailleurs, c'était pas votre billet d'humeur. Votre billet d'humeur, au départ, c'était la guerre en Ukraine et la menace nucléaire. En quelques secondes, est-ce qu'on peut craindre effectivement une menace terrible qui, on en parle de plus en plus.
Je développerai ça plus une autre fois.
Une autre fois.
Il y a peut-être le temps, vous manque peut-être. Mais non, disons qu'il y a effectivement, Poutine a fait peur à tout le monde en agitant la menace nucléaire, mais c'est bien parce que la Russie a l'arme nucléaire qu'on ne l'attaque pas directement. En 99, la Yougoslavie n'avait pas l'arme nucléaire et donc on l'a attaquée. Et c'est bien la différence. Et donc il peut y avoir une sorte d'incitation un peu à se doter de l'arme nucléaire. Mais du fait des menaces de Poutine, il y aura certainement à la fois un grand mouvement public pour l'abolition de l'arme nucléaire, mais qui restera public, et peut-être des manœuvres souterraines de pays qui se diront, finalement, si j'ai un nucléaire, on me foutra la paix.
Exactement. Merci, mon cher Pascal Boniface. Je voulais, c'est vrai que c'est moi qui ai pris l'initiative, évidemment, de mettre à l'antenne ce procès, et, évidemment, et je voulais qu'on en parle, parce que j'ai vu...
J'ai les attendus sur mon compte Twitter, ils sont consultables, c'est public.
Voilà, c'est public. Allez-y, chers amis auditeurs partout en France. Évidemment, si vous le souhaitez, soutenir et manifester, comme le dit Pascal Boniface, votre soutien. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Pascal Boniface, très belle soirée et à jeudi prochain.
Merci
sans faute.
Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci.
À très vite, 19h37. On va... c'est là, déjà la deuxième pub. Oh oui, déjà. Que le temps file. Pub, et on se retrouve avec d'autres candidats législatifs. Et le 01 53 48 3000, si vous souhaitez intervenir pour nous dire est-ce que vous comptez aller voter dimanche prochain. Est-ce que ça vous intéresse justement ces législatives? Je vous attends.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informer avec Adil Farkas.
Et les 19h45, dernière ligne droite, vous le savez, ici on va recevoir donc tous les candidats, les certains candidats qui ont retenu notre attention. Et on se retrouvera tout à l'heure avec Johan, justement, Adadi, qui sera avec nous du côté de Metz. On va aller direction Clichy-sous-Bois, tiens, avec le maire de Clichy-sous-Bois, monsieur Olivier Klein. Bonjour Olivier Klein, bonjour monsieur le maire.
Bonjour Adil.
Comment allez-vous, puisque Emmanuel Macron, le chef de l'État... Ça y est, il est entré en campagne et il a décidé de, en quelque sorte, donner un brin de parfum à Clichy-sous-Bois. Pour quelle raison?
Alors, ce n'était pas une visite de campagne. Avec le président de la Fédération française de judo, Stéphane Nobis, on avait invité le président de la République il y a très longtemps. On lui avait dit, au mois de juin, on sera prêt et le premier dojo solidaire... sera inauguré au mois de juin et il a tenu son engagement d'être présent à cette inauguration. L'idée, c'était ce que le président de la République a lancé en octobre en Seine-Saint-Denis déjà à Tremblay, de mettre 5000 équipements sportifs de proximité dans les quartiers populaires.
Donc promouvoir le sport chez les jeunes.
Promouvoir le sport au cœur du quartier. Nous, notre dojo solidaire qui va avoir à la fois du judo mais aussi du breakdance. Oui. C'est quelque chose qu'on a ouvert dans le centre commercial du Chêne Pointu, dans un ancien magasin d'habillement. On est vraiment au cœur du quartier du Chêne Pointu, ce quartier qui est compliqué. Et donc le président a tenu son engagement et puis il a montré encore une fois son intérêt pour les quartiers populaires et en particulier pour Clichy-sous-Bois. Et c'était vraiment un très beau moment. La politique de la ville, c'est quelque chose qui prend du temps, le renouvellement urbain, détruire le Chêne Pointu, ses copropriétés extrêmement dégradées. Oui. Les gens, ils sont dans la patience, ils sont dans l'urgence. Et avoir réussi
Monsieur le maire,
dojo en moins de 3 mois, c'est une vraie gageure.
Monsieur le maire, dites-moi, monsieur Olivier Klein, est-ce que vous avez échangé avec le chef de l'État, Emmanuel Macron, concernant évidemment le ministre de la ville? Beaucoup se posent des questions, justement, dans les quartiers populaires qui se disent avoir été surpris de ne pas voir de ministre de la ville. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous en avez parlé avec le chef de l'État?
Non, pas directement, en tout cas pas moi, mais... Mohamed Mechmache, qui était présent, a échangé avec lui. Le président lui a redit à quel point la question des quartiers populaires était pour lui une priorité, que dans la période actuelle, c'est Amélie de Montchalin avec le ministère de la Cohésion des Territoires qui avait cette responsabilité-là. Après, bien évidemment, il va falloir continuer à œuvrer, pour ma part, avec Hakim El Karoui et l'Institut Montaigne. On vient de sortir un rapport sur... les quartiers pauvres ont un avenir, parce que moi comme d'autres, on est persuadé que l'avenir du pays se construit dans les quartiers populaires et qu'il y a une formidable énergie, qu'il y a beaucoup d'ambition dans ces quartiers, qu'il y a beaucoup d'opportunités et qu'il ne faut pas perdre ces opportunités, ces grandes qualités des habitants de nos quartiers.
Alors, je sais que les habitants de Clichy-sous-Bois ont beaucoup interpellé le chef de l'État, Emmanuel Macron, justement. Quels sont les sujets qui sont venus régulièrement? Je sais que j'ai entendu parler souvent de pouvoir d'achat.
D'abord, il faut vraiment dire que les Clichois ont fait un accueil exceptionnel.
Exceptionnel.
Au président de la République.
Vous avez raison.
Chaleureux.
J'ai vu.
Il a pris du temps. Il y a un vrai bain de foule au-delà de l'inauguration. Il y a eu des questions traditionnelles de gens qui habitent dans un quartier difficile comme celui du Chêne Pointu, qui est dans une action qu'on appelle l'ORCOD, la requalification des copropriétés dégradées. Donc des gens qui nous ont interrogés sur les charges de copropriété, sur le prix de rachat des appartements. La question du logement est revenue très souvent parce que vous le savez, il y a trop d'attentes pour obtenir un logement social et les habitants de nos quartiers subissent ça. Et il faut que le logement social soit construit partout et pour tous. Mmh. Des questions de pouvoir d'achat, des questions de papier aussi.
Alors justement, ce déplacement, vous savez ce qui m'a interpellé, pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur le maire, ce qui m'a interpellé, il y a une vidéo que j'ai vue, une séquence qu'on m'a envoyée justement sur mon portable, en déplacement à Clichy-sous-Bois, Emmanuel Macron a fustigé en quelque sorte, je vais appeler ça le troisième homme de la présidentielle, cette petite fille qui demandait à Emmanuel Macron où était Jean-Luc Mélenchon, et puis Emmanuel Macron qui lui répond, mais lui il n'est pas là aujourd'hui ce soir avec nous, avec vous, donc je ne veux pas qu'il gagne les législatives, sinon après moi je ne pourrais pas faire les choses. Bon, j'ai trouvé cet échange, effectivement, est-ce qu'il est en phase avec aussi une réalité?
Bah, que le président de la République souhaite avoir une majorité au Parlement pour mettre en œuvre sa politique, ça me paraît légitime.
Oui.
Dans les jours qui viennent, au premier tour des élections législatives et au deuxième tour, il souhaite avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Personne ne peut trouver ça contradictoire. Il a été élu sur un programme et pour mettre en œuvre ce programme, il a besoin d'une Assemblée nationale qui soit en phase avec ses idées. Moi qui suis social-démocrate, attaché à des valeurs de gauche, je crois que le président de la République, dans ses engagements, dans ce qu'il a déjà fait, les CPA 12, 12 milliards pour l'Agence nationale de renouvellement urbain, les colos apprenantes,
oui.
Il a annoncé un renforcement des colos apprenantes pour cet été. Il a démontré son attachement à ses valeurs sociales. Je crois qu'on peut défendre un projet de gauche sociale. Et de soutenir le président.
Dernière question, mon cher Olivier Klein, monsieur le maire de Clichy-sous-Bois. Dites-moi, on parle de vous justement de plus en plus de rejoindre le gouvernement, l'exécutif. Bon, vous le vivez comment?
Ça fait très longtemps, trop longtemps qu'on en parle. Moi, je suis maire de Clichy-sous-Bois. Je le suis depuis octobre 2011. Je suis premier adjoint depuis 1995. J'habite cette ville depuis 55 ans aujourd'hui. Et j'essaye d'être utile aux habitants des quartiers populaires. Ma seule boussole, c'est comment je peux être utile d'abord aux habitants de Clichy-sous-Bois et à l'ensemble des habitants des quartiers populaires. Je suis président de l'ANRU, je suis loin d'être désœuvré. Après, il y a un président de la République, il y a une première ministre et ils choisiront la meilleure ou le meilleur pour accompagner les quartiers. Je suis même pas certain qu'il soit le ministre de la ville. Vous savez, j'ai toujours dit que la politique de la ville, c'est quelque chose de très transversal. Et il faut, pour l'éducation, pour le logement, pour l'emploi, pour la sécurité, le transport, la question des quartiers populaires, elle est très transversale.
Merci Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois. Merci infiniment d'avoir été avec nous.
Merci Adil de votre invitation.
Merci, 19h51, on va accueillir le candidat qui est notre dernier invité justement, il s'appelle Johan Haddadi. Bonsoir Johan Haddadi.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes du côté de la Moselle, Johan Haddadi. De la Moselle, justement, vous avez décidé de vous présenter sous l'étiquette « Tous ensemble, nous sommes la France ». Ça, c'est l'union de la gauche. Hein.
Exactement. Alors moi, je suis socialiste. J'ai même été membre du bureau national du Parti Socialiste pendant quelques années. Et je suis toujours un des dirigeants locaux du Parti Socialiste. Et donc j'ai décidé de mener cette campagne parce que les militants m'ont donné leur approbation. Et à l'unanimité, m'ont demandé de les représenter, de porter nos valeurs sur cette première représentation de la Moselle.
De la Moselle, donc du côté de Metz, justement. Il y a quelque chose, alors j'aimerais qu'on en parle à nos auditeurs. Vous avez écrit quelque chose qui est bien, bien fourni. La France a 1000 passages. Elle a la langue de Léopold Senghor. Elle a les mots de Bernard, Marie, Coltès, etc., d'Aragon, je ne vais pas tous les citer, parce que de Brassens, bref, de Diam, de Bouba, d'Akhenaton. Pourquoi avoir posé ces éléments, Johan Haddadi?
Parce que je crois qu'on observe une segmentation de notre société et je trouve que le milieu politique, finalement, parfois le milieu médiatique aussi, accentue cette segmentation, alors que dans la réalité de nos vies quotidiennes, il y a beaucoup plus d'unité que de différence. On recherche, les gens au quotidien recherchent souvent beaucoup plus le commun que l'expression et de manière trop forte de différence qui sépare. Les gens cherchent à se rassembler, et c'est ça que j'ai voulu dire à travers ce texte qui est d'abord écrit et ensuite que j'ai effectivement déclamé avec un accordéoniste. Ouais.
Johan Adadi, dites-moi justement, vous avez reçu la visite d'amis de Bernard Cazeneuve, l'ancien président de la République aussi, François Hollande, qui est venu vous soutenir. Comment voulez-vous porter votre investiture? Qu'est-ce que vous dites justement à celles et ceux que vous rencontrez, avec lesquels vous échangez pour dimanche prochain? C'est proche, là, on est à quelques jours, hein?
Tout à fait. Ben moi, j'ai porté. Je parle avec les pieds ancrés à gauche, mais j'ai porté un engagement qui est le principal engagement. Quand on est député, il y avait le maire Olivier Klein juste avant moi. Lui, il a une administration, il a un budget. Il peut agir au quotidien sur les rues, sur les bâtiments, sur tout un tas de domaines de la vie quotidienne des gens. Lorsque l'on est député, on n'est pas maire, on n'est pas président de la République, on n'est pas président d'un département ou d'une région. Le rôle, c'est de voter les lois. Et moi, le principal engagement que je prends, c'est de dire tout haut ce que chacun et chacune dit tout bas.
Oui.
Et je crois que ça, c'est très, très important.
Justement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? On arrive au terme de cette émission. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire du côté de la Moselle, dans la première circonscription?
Ah, j'ai envie de leur dire que je vais me battre de toutes mes forces contre l'allongement de la retraite à 65 ans. J'ai envie de leur dire aux 120 000 Mosellans qui traversent la frontière tous les jours pour aller travailler à Luxembourg que je vais me battre pour plus d'Europe et une Europe plus solidaire. J'ai envie de dire aux gens qui galèrent aujourd'hui pour mettre un plein dans le défense ou parfois même pour manger, que je vais me battre pour qu'on puisse réorganiser la redistribution en France et accroître les salaires avec les syndicats, avec tous les partenaires publics, et pas forcément dans le conflit. Moi, je crois qu'on obtient très peu de choses à travers le conflit. La plupart du temps, on obtient des avancées sociales à travers la discussion, le compromis.
Merci. Johan Adadi. Les élections législatives dans quelques jours. La première circonscription de Moselle. Merci d'avoir été avec nous,
Merci,
Johan.
Merci, j'espère qu'on pourra entendre Beurre FM en Moselle un peu plus. Hein.
Oui, on l'est déjà dans le numérique.
Oui, mais à Metz, pas partout. Alors
oui,
on est obligé
c'est
de
vrai.
Sur Internet.
C'est vrai. Le DAB+, on arrive, justement.
Au revoir.
Au revoir, à très bientôt, Johan Adadi. Bonsoir, Bilal Nedman, comment ça va?
Ça va très très bien, comment ça va, Adil? Et les auditeurs
de Beurre
FM? Moi,
je vais bien quand on m'annonce que dans quelques minutes, il va y avoir Time Sport. Et quel est
ça.
Le sommaire?
Le sommaire de Time Sport, c'est spécial Mercato Paris Saint-Germain ce soir.
Aïe. Voilà. Alors Zidane, il vient ou il vient pas? Moi, c'est Ziyad ça qui m'intéresse.
Zidane à Paris, voilà,
moi,
il aimerait bien.
Et
le bon Dieu, hein,
Yanis. Tu veux que je te dise?
Ouais.
Il va signer
selon Adil Farkan. Bon, on verra bien.
Je te promets, je sais pas.
Ce soir, ça va fuser dans tous les sens.
Moi, je pense qu'il va signer. Je pense qu'il va signer.
Eh ben, je sais pas.
À mon avis,
vraiment,
il est en train de dealer, tu sais quoi?
Ouais, ça dit beaucoup là en ce moment.
Non, mais il veut préserver le PSG. Alors, l'accord, c'est que
l'équipe de France.
Et l'équipe de France.
Et là aussi.
Mais ils finiront par trouver un accord.
Eh ben, on verra bien. L'équipe de France, Nasser Al-Khelaifi. Soyez au rendez-vous 20h, 21h, voilà.
Oh là là, quel riche programme qui vous attend. Bye, Bilal Lendman, Time Sport. Merci à la réalisation, c'était Yanis. À demain avec autant de plaisir pour boucler la fin de semaine. À demain, on ne lâche rien. Ciao!
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.